Bonsoir les amis des livres et des apéros. Le mot proximité est le mot de 2017. On ne jure que par lui. La politique doit jouer la carte de la proximité. D'ailleurs, Emmanuel Macron, avec ses meetings, se gorge de proximité. On regrette la police de proximité, sans parler des commerces. Les médias sont obsédés par la proximité avec le lecteur. Il faut s'adresser aux vrais gens, à considérer qu'il y ait donc des faux gens. La proximité serait synonyme de connaissance, mieux de complicité. Je suis proche de toi, donc je te comprends. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ces sornettes, s'énerve la littérature. Mais ça va pas, non. Oh, l'intelligence et Dupont-Monod, c'est sûr, c'est pas un lien de proximité. Mais regardez les livres, c'est exactement l'inverse. La proximité ne fait qu'épaissir le mystère. Sinon, pourquoi tant d'auteurs auraient écrit sur leur père ou leur mère, hein? Ou sur leur meilleur ami, comme l'a fait Catherine Cusset dans L'autre qu'on adorait. Un proche qu'on ne connaît pas, ça peut aussi être un mari. Et Jeanne, dans Une vie de Maupassant, en sait quelque chose. Et écrire sur quelqu'un de proche, c'est faire le portrait d'un inconnu pour reprendre le titre de Nathalie Sarraute, qui regarde au microscope deux personnages et qui découvre un monde invisible. Un peu d'ailleurs comme Geneviève Brisac dans « Vie de ma voisine » paru chez Grasset. Ça commence dans un immeuble. Geneviève Brisac vient d'emménager. Avec les voisins, c'est « bonjour, bonsoir », c'est comme ça. L'immeuble impose une proximité de façade. Parce que qui sont-ils ces voisins? On ne les connaît pas. Jusqu'au jour où, devant l'ascenseur de l'escalier D, une vieille voisine l'aborde. Elle s'appelle Eugénie. Il y a très longtemps, elle a porté l'étoile jaune. Elle raconte. Voici donc Geneviève Brisac, propulsée dans le passé d'une famille polonaise, enracinée en France, follement amoureuse de ses valeurs et qui pourtant ne verra pas venir la trahison et l'infamie. Campée sur ses deux jambes, Eugénie, elle est toujours là, elle, des années plus tard, et elle dit... L'engagement politique de ses parents, la rafle, la survie et la réparation. Un pan entier du siècle défile dans son appartement et cela, Geneviève Brisac ne l'avait pas prévu. Comment savoir que l'histoire a élu domicile deux étages au-dessus d'elle? Alors, le temps d'un apéro, nous partageons un amuse-bouche avec Geneviève Brisac, entre voisines de micro. Elle nous révélera ses secrets d'écriture, sa boîte aux lettres au sens littéral, ce sera le procès-verbal, nous livrera ses vices culturels cachés, comment se refile un digicode, ce sera les inavouables avant qu'une libraire, gardienne de toutes les maisons, ne vienne à bout de nos portes blindées.
France Inter, l'amuse-bouche, Clara Dupont-Monod.
Bonsoir Geneviève Brisac.
Bonsoir Clara.
Vous écrivez « Je peine à m'enraciner, je fuis le passé ». Et pourtant, vous allez plonger tête baissée dans le passé avec Eugénie. Comment expliquez-vous ce paradoxe?
Un déménagement, c'est toujours quelque chose d'imprévisible. Quel résultat ça va donner? Comment on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? Et c'est vrai qu'en général, quand on déménage, on essaye de s'éloigner, si on n'y est pas contraint, d'années passées, de lieux passés, etc. Donc, il faut retrouver de nouvelles racines et c'est ce qui s'est passé là.
Vous êtes devant l'ascenseur et vous vous faites aborder par une vieille dame qui vous dit...
Elle me dit « Je vous ai entendu à la radio ». Et elle me dit, je vous ai entendu parler de Charlotte Delbault. Charlotte Delbault, je l'ai très bien connue.
Alors
et
Charlotte Delbault, juste pour nos auditeurs, rescapée des camps d'extermination, vaillante petite dame qui est décédée en 1985.
Exactement. Donc Charlotte Delbault, c'est une résistante, c'est une personne très engagée, c'est une femme de théâtre aussi, c'est une lectrice incroyable, c'est une femme d'origine italienne, c'est aussi une immigrée, et c'est un très grand écrivain. C'est peut-être ça qu'il faudrait dire en premier. C'est, je crois, un aussi grand écrivain que Primo Levi.
Donc à partir de Charlotte Delbault, vous allez remonter le fil avec Eugénie, puis le fil de la vie d'Eugénie. On commence par les parents d'Eugénie, qui sont des juifs polonais installés en France en 1924. Ces parents-là, ils sont assez particuliers, ils ont une conscience politique très forte, et c'est Léon Blum qui en parle le mieux.
De quoi est né le socialisme? De la révolte des plus nobles sentiments de l'âme humaine, blessé par la vie, méconnu par la société. Le socialisme est né de la conscience de l'égalité naturelle, alors que la société où nous vivons est tout entière fondée sur le privilège. On est socialiste à partir du moment où l'on se refuse à accepter la figuration actuelle des faits économiques comme nécessaire et éternel. À partir du moment où l'on a cessé de dire « Bah, c'est l'ordre des choses, il en a toujours été ainsi, et nous n'y changerons rien. À partir du moment où l'on a senti que ce soi-disant ordre des choses était en contradiction flagrante avec la volonté de justice, d'égalité, de solidarité qui vit en nous.
Formidable.
Ah, c'est incroyable. Ah, oui. Léon Blum, le 1er décembre 1929, c'est très actuel comme discours en 2017.
Incroyable, formidable. Pour les gens qui se demandent qu'est-ce que c'est la gauche, qu'est-ce que c'est être de gauche, est-ce que ça a encore du sens, patati patata. Donc à écouter Léon Blum, c'est parfait, c'est formidable. Et le livre, il parle beaucoup de ça.
Et donc les parents d'Eugénie sont emplis de ces idéaux-là. Ils sont épris d'égalité, de justice.
Alors lui, pour être un peu concrète, hein, donc lui, c'est le fils d'une famille très nombreuse de juifs polonais. Lui, il est professeur de russe et de polonais en Pologne dans les années 20. Et il est obligé de partir parce qu'il n'a pas de travail, parce qu'il y a des persécutions antisémites et parce qu'il y a du chômage. Donc il part un peu, il fait un peu le tour de différents pays. Il va jusqu'en Palestine, mais le climat ne lui convient pas du tout. Il revient, il s'installe en France, il va à l'usine. Et quand il a trouvé du travail, il fait venir sa fiancée, Rivka Reifus, qui, elle aussi, veut fuir le shtetl étouffant. Elle est déjà partie à Varsovie. C'est une militante du Bund, donc c'est juif révolutionnaire, c'est une luxembourgiste. Et donc, ils se retrouvent tous les deux sur les bords de la Marne. Et c'est là que va naître, en 1925, Eugénie.
Les parents d'Eugénie donc, sont en France, ils occupent un logement minuscule. Eugénie, elle est assez heureuse et elle adore sa mère, Rivka. Ah. Rivka qui, pourtant, n'est pas très tendre.
Je sais pas très bien. Elle est très rassurante quand même. Je pense qu'elle est quand même assez tendre aussi.
Elle a un très fort esprit pratique.
Oui.
Elle fait des bocaux.
Elle est très intelligente. Elle sait faire un million de choses. Et puis elle sait faire un million de choses avec pas d'argent.
Elle me fait penser à la mère de Pearl Buck. Mmh. Ce magnifique roman. En fait, ce sont les mères infatigables. Mmh, les femmes roseaux qui plient mais qui rompent pas. Pourquoi est-ce qu'il vous touche ce personnage de la mère?
Parce qu'elle est extrêmement fiable. Il y a une scène que j'aime énormément, c'est quand Eugénie a 8 ans, elle a les amygdales, hein, donc elle est opérée, exactement, et elle doit être hospitalisée pour l'opération, et c'est à l'hôpital Saint-Joseph, et sa mère vient, l'installe, et lui donne du jus de cerise glacé, et elle lui dit du jus de cerise rouge comme le sang des amygdales, et l'image elle est vraiment très forte, et elle dit à sa petite fille, hein, qui a 8 ans, donc c'est en 33, hein, elle lui dit, alors, je ne vais pas venir pendant 3 jours parce qu'on est à Aubervilliers, là-haut, à vendre des chaussettes au marché. Tu vas rester toute seule, il n'y a aucun problème. On est là, il n'y a pas de téléphone, nanana. Tu vas... Et puis, on viendra te chercher, t'inquiète pas, je vais venir te chercher. Et Eugénie, elle sait très bien qu'effectivement, sa mère viendra la chercher. Il y a une confiance absolue.
Un appui, un socle.
Oui, oui. Et ça, c'est vraiment magnifique. Son père est aussi, Nochim, il est extrêmement fiable dans son genre, mais il est beaucoup plus doux. Effectivement, il est peut-être plus tendre dans cette. Si on fait cette opposition, on va dire j'en sais rien. Toi, c'est quand même un petit peu inventé malgré tout. C'est ce que raconte leur petite fille. Mais surtout, c'est un immense lecteur. Mais comme il a des très mauvais yeux, ce qui est vraiment très important dans toute l'histoire, c'est dès qu'elle sait lire, c'est Eugénie qui lui lit tout. Donc elle lui lit les grands auteurs du socialisme que vous évoquiez. Elle lui lit Victor Hugo, elle lui lit surtout Romain Rolland, qui a cette très belle phrase que j'adore, un héros, c'est celui qui fait ce qu'il peut. Et puis les autres qui ne font pas ce qu'ils peuvent, ben, c'est pas des héros.
Et parfois, elle saute des passages parce qu'elle trouve ça trop long.
Oui, exactement.
Et elle ne lui dit pas.
Mais en fait, il le sait, mais il ne lui dit pas non plus.
Et elle se sent coupable pendant très longtemps.
Voilà, mais elle ne le dit pas non plus.
Les parents ont un petit stand sur le marché, ils vendent des chaussettes. Ça roule à peu près. Arrivent les premières mesures contre les Juifs. Et là, ils ne prennent pas la mesure du danger.
Alors avant, quand même, il faut dire que, comme c'est vraiment des militants, dès 34, donc elle a 8 ans et demi, 9 ans, Nochim Plocky emmène sa fille manifester. Sa première manif, c'est à 8 ans et demi. Et ce n'est pas une manif pour rigoler. Hein, c'est la manif contre les ligues fascistes qui ont voulu faire un putsch. Donc ça, c'est en 34. Et puis en 36, il l'emmène aussi aux manifs, et puis c'est les congés payés, et puis c'est les grèves, et avant les congés payés, c'est les grèves, c'est dans l'autre sens, et il l'emmène aller voir des copains qui occupent les usines, etc., etc. Donc ça, c'est un imaginaire qui va avec ce qu'on a entendu tout à l'heure, qui est très fort sur la solidarité, sur la chaleur, sur le rire aussi, et quelque chose qui la façonne. Et puis, comme vous dites, les périls se profilent, il y a de l'orage dans l'air, plus que de l'orage, il y a des menaces, le nationalisme, comme un peu aujourd'hui aussi, arrive de partout.
On leur propose d'aller s'installer à Londres.
Propose, c'est pas exactement
ils
ça,
il y a la possibilité. Oui. Ils veulent pas. Donc c'est imputable à quoi? Ils ont presque trop confiance?
Non, c'est... Vous savez, c'est... Enfin, vous savez, on sait pas, mais on sait en même temps. On a déjà immigré une fois, on a réussi à se faire une vie, on a réussi à trouver un minuscule logement. C'est très difficile, on a commencé à travailler, on a des enfants qui parlent français. Depuis 27, ils sont français, les enfants. Tout recommencer, ça se fait pas comme ça. Et partir, il partirait bien en Angleterre, je crois, Nouchi, mais puis elle a pas envie.
C'est Rivka qui veut pas.
Oui, ce qui paraît contradictoire. Hein. On pourrait imaginer l'inverse, mais là, c'est comme ça. Enfin, de toute façon, quoi qu'il en soit, et quoi qu'il se soit passé, ils ne partent pas. Il y a des gens qui sont partis, il y a aussi beaucoup de gens qui sont pas partis.
Le jour où Eugénie porte pour la première fois dans la rue l'étoile jaune, elle croise des gens et elle dit « C'est l'époque où j'ai commencé à diviser les gens en deux groupes, ceux qui comprennent et les autres. J'en suis encore là. Qui comprennent quoi ?»
C'est vraiment un comprennent intransitif. Hein, et je crois que c'est tout à fait vrai. Dans la vie, il y a les gens qui comprennent. Ils comprennent ce qui vous arrive. Ils comprennent que les autres, c'est pas forcément la joie pour eux. Ils comprennent qu'une petite fille qui rentre la tête dans les épaules et qu'une porte une étoile jaune, c'est vraiment pas marrant pour elle. Ils comprennent la vie, en fait. Hein. Ils sont pas indifférents. Le contraire de comprendre, je crois que c'est être indifférent.
Le premier qui comprend, c'est un soldat allemand.
Oui, c'est important. Et c'est très important.
Paradoxe.
Oui. Et d'ailleurs, ça l'amènera beaucoup plus tard à dire qu'elle, jamais, elle fera sien le mot d'ordre à chacun son boche. Elle n'est pas du tout contre les Allemands. Elle est contre les nazis. C'est une internationaliste. C'est la disciple de Rosa Luxembourg. Rosa Luxembourg n'est jamais loin.
Le soldat allemand la regarde et lui sourit.
Oui.
Et elle se sent comprise.
Exactement. Belle. Et lui, il va aller mourir bientôt à Stalingrad.
On s'est demandé, Geneviève Brisa, quelle musique correspondrait à Eugénie, parce qu'il y a aussi de la musique qui correspond à des beaux personnages. Et on l'a trouvé. C'est une autre femme, comme elle, les deux pieds dans la vie. Et malgré les tempêtes, c'est une vaillante. J'ai nommé Patti Smith et Eugénie.
Formidable.
Même combat. Geneviève Brisac est avec nous jusqu'à 20h pour son roman Vie de ma voisine, l'histoire d'une locataire qui se lie d'amitié avec Eugénie, une vieille dame qui a vu le pire du XXe siècle.
Clémenti, la France qui a été battue, ce n'est pas le peuple français, c'est la bande de salons, de juifs et de capitalistes qui nous dirigeaient.
Les premières rafles ont lieu de mai à décembre 1941. Puis les nazis et le gouvernement de Pétain décident les déportations massives. René Bousquet, promu secrétaire général à la police au printemps 1942, promet au chef SS l'arrestation de milliers de familles juives. L'opération dite « Vent printanier » prévoit 28 000 arrestations dans Paris, il y en aura près de 13 000. Seule une poignée réussira à passer entre les mailles du filet et à survivre pour témoigner.
En tout cas, j'ai tous mes camarades, les filles, les garçons. À 17 ans, j'avais des copains, j'avais des copines, je connaissais des gens. Ils ont tous disparu. Ils sont partis. Il n'y a personne qui est revenu. On me dit, pourquoi tu ne racontes pas tout ce qui s'est passé à l'intérieur? Comment vous voulez raconter des choses? Moi, je ne cherche pas à faire pitié. Simplement, comment, moi, ce que je demande, comment il est possible qu'un gouvernement français a pu favoriser l'envoi de 4000 enfants à la mort dans une journée?
La voix de Léon Fellman. Le 16 juillet 1942, Eugénie, son frère et ses parents sont arrêtés par la police française. Parmi eux, d'ailleurs, il y a un ancien voisin qui s'appelle Mulot, qu'elle va retrouver ensuite. La famille est parquée, la police annonce que les enfants français peuvent sortir. Et là, le père et la mère s'échangent un regard, et c'est décidé en un regard. Ils se sépareront de leurs enfants pour leur laisser une chance de survie. Et là, il s'écoule 2 heures, les dernières, en fait, durant lesquelles la mère d'Eugénie parle à sa fille, donc à Eugénie. Qu'est-ce qu'elle lui raconte pendant ces 2 heures, Geneviève Brisac?
Alors, elle la prend entre 4 yeux, comme on dit vulgairement. Il y a une grande pièce dans cette maison, cette villa, disons, de l'avenue Besquel, donc à Vincennes, très près de chez eux. Et donc, elle prend sa fille comme ça, elle se concentre, visage contre visage, et elle lui dit, en 2 heures, tout ce qu'une jeune femme doit savoir de la vie. Parce qu'elle comprend qu'elle ne la reverra plus. Et donc, elle se concentre énormément, j'en suis sûre. Et elle commence, je suppose, par lui dire, alors, tu vas rentrer à la maison, là, il y a telle chose, là, il y a telle autre, c'est les casseroles, le ménage, le loyer, il faut aller à la mairie chercher les tickets. Bon, alors, la boulangère, elle prend les faux tickets, bon, etc., etc. Enfin, tous les petits détails. Et puis, il faut continuer à aller à l'école. Les études, c'est la chose la plus importante du monde. Il faut toujours continuer à faire des études. Rivka, elle sait que sa fille, elle est très intelligente et qu'il faut vraiment qu'elle étudie et qu'elle fasse quelque chose de sa vie grâce aux études, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on fait quelque chose de sa vie. Et puis elle lui dit, tu es une femme, donc tu vas tomber amoureuse, évidemment. Et tu vas tomber amoureuse d'un garçon. Et puis peut-être que tu vas être enceinte. Mais si vous ne pouvez pas avoir l'enfant à ce moment-là, tu peux avorter, tu peux faire passer l'enfant, tu trouveras toujours la solution. Et puis, si tu n'aimes pas un garçon, tu n'es pas obligé de l'épouser, on n'est jamais obligé de se marier, etc., etc.
Elle lui donne des outils pour ensuite être émancipée.
Exactement, exactement. Et donc, quand Eugénie Plocky m'a raconté tout ça, j'en avais la chair de poule, quoi. C'était extrêmement émouvant. Et elle dit, c'est les 2 heures les plus importantes de ma vie, parce que la générosité, l'oblativité et l'intelligence de sa mère l'ont remplie d'énergie et de force pour toute sa vie à elle. C'est pas forcément toutes les mères qui feraient ça, qui penseraient uniquement à leurs enfants. D'ailleurs, ni les pères. Là, c'est une espèce de concentration intellectuelle de se dire, il faut que je lui donne tous les moyens. Et puis, elles s'en vont. Et donc, les parents partent à Drancy et Eugénie et son frère rentrent à la maison. Mais d'abord, elles passent par la rue Monge pour voir comment ça se passe pour un petit cousin qui remange.
Eugénie, elle a une petite chance qui porte un prénom qui s'appelle Monique.
Exactement.
Et Monique, c'est sa grande copine.
Oui.
Leur amitié va durer 80 ans. Quand vous rencontrez Eugénie, qui est donc votre voisine qui vous raconte tout ça, elle est encore copine.
Tout à fait. Elle se parle très très souvent. Oui.
Il y a la mère de Monique aussi, puisque la mère de Monique s'occupe de Eugénie et son frère. Et elle me faisait penser à ces héros anonymes que l'histoire n'a pas forcément retenu, ces héros ordinaires. Est-ce que Monique et sa mère appartiennent à cette cohorte d'ombre, en fait?
Donc, c'est vraiment des personnes, quoi. C'est des personnes formidables, chaleureuses, là aussi fiables à 100%. C'est vraiment l'amie intime, l'amie avec qui on partage tout. Elles vont devenir institutrices, elles passent leurs examens ensemble, leur bac ensemble, elles vont fêter la libération de Paris ensemble. Enfin, tout se passe ensemble tout le temps, pendant des années et des années et des années. C'est central, l'amitié. C'est aussi de ça que le livre parle.
Vous avez dit tout à l'heure que Eugénie et vous avez bâti votre lien sur Charlotte Delbault. Mais le lien déjà entre Charlotte Delbault et Eugénie existait.
Et alors maintenant, si je rencontre un jeune Allemand de 25 ou 30 ans,
il n'y est pour rien.
Il est malheureux. Non, je ne crois pas avoir d'aptitude à la haine. Je suis bien capable de me mettre en colère et de tomber sur quelqu'un, mais La haine, non.
Charlotte Delbourg, en avril 1974, je n'ai pas d'aptitude à la haine, ce qui est quand même extraordinaire quand on sait d'où elle vient. Eugénie non plus, n'en a pas. Est-ce que c'est ça, leur point de ressemblance, Geneviève Brisac?
Elles ont pas de la haine, mais elles ont la colère. Elles ont surtout un amour de l'humanité, un goût de la pensée, je crois. Moi, je pense que ce qu'elles ont vraiment en commun, c'est un amour de la pensée et une conviction que la pensée humaine s'en va brisant toute chaîne, comme dit Victor Hugo. Et je crois que c'est ça qui les unit. Vous savez, dans le livre de Charlotte Delbault, La connaissance inutile, elle raconte quel groupe de camarades, de femmes, elles sont soudées comme un seul corps et qui font face à toutes les horreurs ensemble. Et elle dit de manière extrêmement drôle, j'aime beaucoup cet humour, elle dit, de toute façon, on ne pouvait pas mourir tout en même temps. Hein. Donc, quand il y en a une qui mourait, ben, l'autre, elle ne mourait pas. Donc, et c'est comme ça qu'elles ont survécu en se tenant et en pensant, en parlant et aussi en jouant. C'est-à-dire que, en jouant du théâtre. C'est-à-dire que Charlotte Delbault, c'était l'assistante de Louis Jouvet. C'est pas non plus n'importe qui. Louis Jouvet qui s'est pas très, très bien comporté avec elle, au demeurant. C'est-à-dire quand elle lui a fait lire ce qu'elle avait écrit, elle a dit, oh, c'est pas très bon, hein. Et, bref, glissons sur
bien
ce
vu,
point de
Louis.
Détail. Bien vu, Louis, exactement. Et elle raconte comment elles ont monté au premier Noël le malade imaginaire.
Vous disiez que Charlotte Delbault croyait en la pensée. Elle croyait aussi en la force des mots.
Moi, j'ai une grande foi dans la parole et la communication. Je suis peut-être un peu démodée, mais je ne crois pas à l'incommunicable. Je crois que les mots ont une force qui leur permet de toucher les gens au cœur.
Charlotte Delbault, elle dit ça alors qu'elle a écrit. Eugénie, votre voisine, Geneviève Brisac, elle n'a pas écrit.
Non.
Est-ce qu'elle vous demande implicitement de faire ce que Charlotte Delbault a fait, de consigner pour laisser une trace? Elle vous l'a demandé explicitement,
non,
comme ça?
Non, pas du tout. Même elle me l'a pas demandé du tout. Elle était même pas très pour. Elle disait, mais j'ai rien à raconter, je suis personne. Je dis, non, mais moi non plus, personne n'est personne, dire ce régime-là. Mais je reconnais une chose, c'est que moi je suis écrivain, c'est ça mon... Donc, comme Charlotte Delbault. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est déporté qu'on écrit des livres géniaux. Ou dans le cas de Charlotte Delbault, un livre sublime. C'est parce qu'elle était écrivain avant, pendant et après. Et c'est, je trouve ça qui est essentiel. Et donc, Génie, comme c'est une immense lectrice, sa bibliothèque, comme elle dit, mon père serait content s'il voyait ça. Son appartement, c'est des murs entiers de livres, surtout, de littérature,
oui,
etc.
Oui, mais là, vous m'éloignez. Et puis surtout, vous vous dérobez un petit peu par rapport à la question, parce que dans votre livre, on voit passer le fantôme d'Elena Vladimirova, qui est restée 18 ans dans les geôles de Staline, qui a écrit en cachette un grand poème, qu'elle a ensuite restitué de mémoire. On voit se profiler l'ombre de Scholastique Mukasonga, qui est rwandaise et écrivaine aussi. Au fond, Geneviève Brisac, finalement, vous faites comme ces deux auteurs, vous laissez une trace de la vie de Génie. Est-ce que ce qui motive votre écriture, et en particulier ce livre, c'était de dire « je suis le dernier témoin, je laisse une trace ».
C'est plus que ça, c'est vrai, il y a de la trace, il y a aussi de la transmission. Peut-être que transmission, parce que c'est vraiment... Un ami m'a fait remarquer que le livre était entièrement au présent, tout est au présent. On se rencontre devant le cerisier au présent, on est dans l'appartement au présent... on est dans la villa à Vincennes quand le commissaire entre au présent. On est avec Nouchim dans le bois de Vincennes quand son petit garçon tombe dans le lac au présent. Tout est au présent. Et ce présent, parce que ça se passe aujourd'hui, je pense qu'il faut bien comprendre que ce qui arrive à Génie Plocky, ce qui est arrivé à des milliers de gens, comme on l'entendait tout à l'heure, arrive aussi à des tas d'autres gens aujourd'hui dans différents endroits et peut aussi bien d'ailleurs nous arriver après-demain à nous. On n'en sait rien du tout. Et il ne faut pas croire qu'on est protégé de la violence, de la barbarie. Personne ne l'est jamais complètement. Et les vies se retournent. Et donc c'est bien de savoir que par rapport à ça, la façon dont on se comporte, il y a des mulots. Puisque le flic qui est venu arrêter la famille Plocky s'appelait Mulot, ce qui m'a toujours fait rire d'ailleurs. Et puis il y a aussi des gens qui comprennent. Et que c'est vraiment essentiel pour que l'humanité survive, pour se rassurer, quoi.
Et aucun événement n'a servi de vaccin.
Non, ça sert jamais. Mais en revanche, le comportement individuel, la morale individuelle, les valeurs individuelles, c'est le seul vaccin.
Geneviève Brisac, il est temps de nous révéler comment vous avez tracé ce portrait d'Eugénie, cette petite voisine, et puis comment vous écrivez. On parlait de proximité au début de cette émission. Bon, bah là, ça va carrément être une mise à nu, puisque c'est l'heure du procès-verbal. Votre nom.
Geneviève Brisac.
Vous écrivez assise, couchée ou debout?
Les trois, en fait, en général. Tout arrive. Je peux écrire couchée sur mon lit, ou je peux écrire assise à mon bureau, je peux écrire debout contre un meuble ou accroupie dans un coin. En fait, ça m'est un peu égal.
Sur ordinateur ou sur papier?
Les deux.
Vous écrivez chez vous ou au café? Quand vous êtes couchée, pas au café, mais quand vous êtes assise?
Ben, les deux.
Les deux aussi?
Oui, dans les trains et dans les bus.
Un peu
mon premier livre, je l'ai écrit dans un bus.
Uniquement un bus,
oui.
Que vous preniez toute
oui.
la journée.
Oui.
Ah oui, d'accord.
Vous enfin, non, pas toute la journée, mais chaque fois que j'étais dans le bus, j'écrivais.
En musique ou en silence? Vous allez me dire les deux.
Oui.
Ah oui, d'accord. Est-ce que vous avez un...
Mais j'aime beaucoup, cela dit, une raison que je peux avoir de rester à la maison pour écrire, c'est la musique. J'aime beaucoup mettre un opéra de Handel ou La Passion selon saint Matthieu remplir. Parce qu'en fait, la musique remplit la maison, hein, l'habitacle, d'une certaine façon. Et du coup, on a chaud pour écrire. Quoi.
Est-ce que vous avez un petit rituel quand vous écrivez? Vous buvez de la tisane, vous fumez, vous vous rongez les ongles?
Pendant très longtemps, j'ai fumé. Quand j'ai arrêté de fumer, j'ai cru que je pourrais plus écrire, comme beaucoup de gens qui fument. Et donc, à cette époque, j'avais trouvé un truc, j'allumais une bougie qui faisait office de cigarette. Comme ça, je me disais, tant qu'elle se consume, j'ai pas le droit de bouger. Le gros problème de l'écrivain, vous savez, c'est qu'il faut pas qu'il bouge. Or, en fait, il a envie de bouger. Il a envie d'aller, enfin, si c'est une femme, en plus, elle a envie d'aller mettre une machine, de faire une liste de courses, etc. La maison pour une femme est assez dangereuse. Ça beaucoup dire. C'est pour ça que Nathalie Sarraute, que vous évoquiez, allait au café. Elle n'avait pas, comme ça, à penser à la vie de la maison.
Le téléphone sonne. Est-ce que vous décrochez?
Oui. Je décroche toujours le téléphone. Je sais que c'est tort, hein, mais je décroche le téléphone parce que je suis une personne inquiète. Et donc, le téléphone, on ne sait jamais, quoi. C'est vraiment ça.
Merci Geneviève Brisac, vous êtes libérée au moins du procès-verbal. Et puisqu'on parlait du grand amour d'Eugénie pour la vie, rien de plus naturel que d'écouter Grand Amour d'Albin de la Simone.
Elle vivait dans la forêt, un cabanon, comme elle disait. Elle dormait quand elle voulait. Travaillait jamais. Pareo noué dans le dos, des fruits, des fleurs et des oiseaux, le goût du sel sur la peau. Elle était belle, j'étais beau. Sous un baldaquin de tulle, une bougie, le clair de lune, nos deux corps dans une bulle, le cœur et la fortune. On ne parlait pas d'amour. L'amour, c'est quoi? On ne parlait jamais d'amour. Le grand amour, ça n'existait pas. Elle fumait, je l'embrassais, je cuisinais, elle m'enlaçait, elle dansait. Je chantais en anglais, en javanais. Nu sous mon tablier, je revivais. Abandonné sous les baisers parfumés. On ne parlait pas d'amour. L'amour, c'est quoi? Ne parlez jamais d'amour, le grand amour, ça n'existait pas. C'était l'amour, je m'y connais, je suis... jusqu'à ce jour de fin juillet. Elle souriait, mais je devinais, le vent avait tourné. Affolé par l'épouvantail de quelle erreur monumentale. L'amour, le vrai, le beau, c'était barré au galop.
Écoutez la Muse-Bouche jusqu'à 20h avec Geneviève Brisac et son livre « Vie de ma voisine » paru chez Grasset. Et puisqu'on parle de voisins, il faut savoir que les meilleurs, ce sont les libraires. Ce sont des voisins merveilleux, ils font jamais de bruit puisqu'ils travaillent tout le temps. Libraire, c'est au moins du 35 heures par jour. Mais ils trouvent toujours deux minutes pour nous appeler. Je ne sais pas pourquoi, c'est vers cette heure-ci. Ah, oh, la sonnerie. Allô ?
Bonsoir, c'est Delphine, j'appelle pour l'apéro.
La bonne idée ! Mais ne seriez-vous pas Delphine Bouillot de la librairie Aime-Lire à Laval ?
Tout à fait.
Bingo ! Mais quelle proximité ! Soyez la bienvenue Delphine ! Et alors dites-nous quelle est la situation la plus farfelue que vous avez vécue dans votre boutique ?
Je ne sais pas si c'est la plus farfelue, mais en tous les cas, très souvent, nos lecteurs arrivent, ils mélangent les titres, les auteurs, et puis parfois, ils arrivent, ils ont ni le titre, ni l'auteur, bref, ils savent pas grand-chose.
Ils ont juste l'envie de lire, c'est déjà pas mal.
C'est ça, mais ils ont vite un livre bien précis quand même, et je me rappelle d'un client qui n'avait d'ailleurs plus le titre ni l'auteur, mais a priori, ce livre était très connu, et je devais certainement l'avoir lu. Alors bien évidemment, j'essaye de lui poser quelques questions pour essayer d'avoir plus de détails, mais en vain. Alors à un moment, il me dit qu'il croit se rappeler, que ça ressemble à un conte, qui pourrait se passer peut-être en Égypte ou ailleurs. Et enfin, au bout de quelques minutes et au bout d'une conversation complètement surréaliste, le client me dit qu'en fait, le titre pourrait ressembler à quelque chose comme Marcel l'Arménien.
Marcel l'Arménien.
Et là, en fait, je comprends d'un coup qu'il voulait Léon l'Africain de Maalouf. Et en partant, il me dit, vous voyez, je vous l'avais dit, c'est quand même hyper connu, non?
C'est Amine Maalouf qui va être content, Léon l'Africain transformé en Marcel l'Arménien.
Quelque chose comme ça. Donc, on a quand même bien rigolé.
Un roman sur vous, Delphine, ce serait Delphine la Mayennaise. Parce que c'est ça, vous êtes en Mayenne, hein, là, je me trompe pas.
Je suis en Mayenne, tout à fait.
Et quel roman conseilleriez-vous à notre invité Geneviève Brisac?
Eh bien, bonsoir Geneviève Brisac.
Bonsoir,
et moi, à la
Delphine.
Lecture de très beau récit, donc Vie quotidienne de ma voisine, eh bien, j'ai pensé à un titre qui est paru en 2015, qui s'appelle Vivre d'Anise Postel-Vinet, qui est paru aux éditions Grasset. Et dans ce récit, en fait, elle relate son quotidien à Ravensbrück aux côtés de son amie Germaine Tillon. Mais elle va nous décrire avec des mots très simples la folie humaine, mais elle va aussi nous raconter le après, la libération, les non-dits, l'indifférence. Et c'est un récit qu'elle nous livre d'une très grande humanité. Et si elle s'interroge, bien, sur les origines du mal et sur sa persistance, eh bien, elle est comme votre héroïne et comme Charlotte Delbault, eh bien, la figure de cette humanité bien plus forte que la barbarie.
Et Anise Postel-Vinet écrit dans ce livre magnifique, en effet, Vivre. Elle écrit « Je pensais qu'en vieillissant, l'ombre de ce que j'ai vécu pendant la guerre s'estomperait, que j'oublierais un peu. J'ai l'impression que c'est le contraire. 70 ans après mon retour, ce passé est de plus en plus présent en moi. » Un peu comme Eugénie, finalement, Geneviève Brisac.
Bien sûr.
Vous
bien
nous redonnez les références, s'il vous plaît, Delphine ?
Oui.
Alors, c'est « Vivre » d'Anise Postel-Vinet, paru aux éditions Grasset.
Merci Delphine Bouillot de la librairie Aime-Lire à Laval. Merci au magazine Page, la revue des libraires, qui nous offre chaque semaine un libraire tout frais. Delphine, on vous attend pour un verre de spiritus, parce que c'est une liqueur polonaise, qui, une gorgée, vous décape la mâchoire. En fait, je vous le fais court. Vous venez quand même.
Avec grand plaisir.
À tout de suite, Delphine.
À tout de suite.
C'est l'heure des inavouables, Geneviève Brisac.
Et pas tant.
Oui, parce qu'on a beau être la reine des voisines, on n'en est pas moins femme, donc faillible. Voilà. Donc y a-t-il une chanson, un film, une série, cataloguée un peu ringard, un peu kitsch, que vous aimez discrètement ?
Alors, Je pense à Henri Salvador.
Ah oui, si vous l'aimez discrètement. Oui, oui,
Mimi Petite Souris.
Ah, Mimi Petite Souris.
Mimi Petite Souris, je vais te donner du gâteau. Viens voir Petite Souris, comme il est bon, comme il est gros.
Oh, oui.
Je l'ai gardé pour toi, il y a de la crème un peu partout. Avec du chocolat, Petite Souris, sort de ton trou.
Henri, lâche d'abord le marteau qui est caché derrière ton dos et...
C'est un Tex Avery en fait.
C'est ça. Sorti en 1963. Pourquoi vous aimez Mimi la petite souris?
Je sais pas, ça doit me rappeler quelque chose de quand j'étais petite, hein, sûrement.
Bon. Vous avez
c'est un dessin animé, je crois. Ouais. C'est un... J'adore l'insolence. Puis j'aime beau... enfin, je crois aussi que c'est un truc entre les. C'est toujours ce qui m'a plu. C'est une souris maligne et coquine et qui fait ouais, c'est ça, viens mon gros, tu vas voir. Et c'est adorable, quoi.
Et pour quelqu'un qui a dirigé l'école des loisirs, comme vous, pendant de nombreuses années...
J'en change pas.
Est-ce qu'il y a une série également, ou un film, ou un autre inavouable que vous avez?
Ah oui, dans le même genre, il y a quelque chose que j'adore, très mauvais esprit, c'est South Park. Ça, je trouve ça absolument
génial. Ah oui, c'est très mauvais esprit, pour le coup. Et pourquoi vous aimez South Park?
J'aime les trucs mauvais esprit, hein. C'est en fait...
C'est sorti en 97.
J'adore South Park parce que c'est crado, parce que c'est méchant, parce que c'est hyper drôle, parce qu'on y meurt tout le temps, et parce que je pense que les enfants adorent ça. C'est comme Max et les Maxi Monstres. Si, parce qu'on meurt, mais on revit immédiatement. C'est le cas, en l'occurrence.
Et Kenny, voilà. En sait quelque chose.
Oh mon Dieu, ils ont tué Kenny, espèce d'enfoiré.
Oh mon Dieu, elle a tué Kenny.
C'est qu'une enfoirée. Oh mon Dieu, j'ai tué Kenny. Je suis un enfoiré.
Mais non, il va mourir.
Bah vas-y, Kenny.
Oh mon Dieu, ils ont tué.
Non.
Ah non, ça va. Oh mon Dieu, ils ont tué. C'est quoi ce bordel?
Moi, j'en ai rien à foutre. Il est plus sous ma responsabilité.
Oh mon Dieu, ils ont tué Kenny. Espèce d'enfoiré. Oh mon Dieu, le singe batteur a tué Kenny.
Putain, et comment qui a tué?
Oups, espèce d'enfoiré.
Hé, hey, galopin.
Galopin. Alors, il faut savoir que le personnage de Kenny a la tête enfermée dans une capuche. Et
c'est
fait,
ça qui est bien.
Meurt.
J'adore la capuche.
Il meurt à chaque fin d'épisode et tous les autres enfants crient alors « Oh, ils ont tué Kenny !» Alors, il y a des gros mots. C'est un dessin animé où ça défèque, ça se bagarre, ça vomit. Ça
fait du bien.
Voilà. Et c'est dit donc par quelqu'un qui connaît bien la littérature jeunesse.
Ouais, et qui aime la littérature jeunesse insolente.
C'est sur ces gros mots que nous rangeons les amuse-bouches pour passer à table. Invitez vos voisins et voisines, vous en tirerez une idée de roman. La preuve avec Vie de ma voisine de Geneviève Brisac, paru chez Grasset. La semaine prochaine, nous recevrons Bruno Léandry pour son ouvrage historique Les Derniers, paru chez Talendier. L'amuse-bouche est une assemblée de copropriétaires, dont Marie-Annick Rimbaud, Claire-Sophie Collet, Thierry Dupin et David Federman. Après 20h, ce sera D'ici, d'ailleurs, de Zoé Varier. Bonne semaine, offrez des livres à vos voisins, ils le méritent bien. Je vous embrasse et à samedi !